Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, pour l'interview que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Et aujourd'hui, nous recevons Georges Roussel qui est présent au stand EDERCOP lors de ses rencontres, ses 16e rencontres d'écologie au quotidien. A dit bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, EDERCOP, pourquoi et qu'est-ce qui vous séduit chez EDERCOP?
Je crois qu'avant de parler d'EDERCOP, il n'est pas inintéressant de parler de société. Nous sommes dans une société, effectivement, qui est complètement un peu maintenant déboussolée. On le voit bien au niveau de l'économie, on le voit bien au niveau de la politique. Il y a des incohérences flagrantes qui se manifestent dans tous les domaines de la société et surtout de la grosse industrie, de la finance notamment. La politique, les gens ne vont plus voter, donc c'est qu'ils sont désintéressés ou bien qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas. Donc les incohérences, je pense, elles sont fortement présentes. Donc, au fond, pour revenir à l'énergie, disons que l'énergie, c'est un domaine, effectivement, surtout l'énergie électrique. Un domaine, on peut dire qu'on a devant nous une énergie qu'on appelle noble. Donc, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et notamment le chauffage. Le chauffage, on prend dans une centrale classique, on va prendre du fioul et on va la transformer en électricité. On va la transporter, on aura des pertes, des grandes pertes, et on va la redescendre en énergie pour chauffer une pièce avec le chauffage électrique. Donc au fond, à ce moment-là, c'est mieux de faire le fioul et puis de chauffer directement avec. Donc on voit bien que passer par l'électricité, c'est important, mais quand on s'en sert pour du chauffage, je crois que c'est un mauvais placement. Parce qu'il faut savoir qu'on a mis en France, je crois que maintenant presque tout le monde le sait, mais vous le répétez pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi ça, le chauffage électrique en France a été instauré dès la construction des premières centrales à côté de Chinon, qui servaient essentiellement à produire du plutonium. Le plutonium pour faire la bombe que nous connaissons. Donc ça a commencé comme ça, qu'on avait de l'électricité beaucoup. On a dit aux gens, écoutez, mettez le chauffage électrique et tout sera bien, tout sera en ordre. Donc il se fait que maintenant, le nucléaire, on n'a pas une centrale, on n'en a pas deux, on en a 58. Donc il y a un problème de fonctionnement parce que, disons qu'en fonctionnement normal, elles rejettent des produits radioactifs dans l'atmosphère, dans le fleuve et des produits solides. Donc l'énergie électrique, on doit faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Et pour le citoyen que nous sommes, je crois qu'il y a une règle qui s'articule autour de trois axes. C'est-à-dire que nous devons apprendre à consommer moins d'énergie, surtout notamment toutes les énergies, mais particulièrement l'énergie électrique. Donc il faut apprendre à moins consommer. Deuxièmement, je crois qu'il faudrait apprendre à avoir des équipements qui soient bien adaptés pour consommer le moins. Et en troisième lieu, je crois qu'il faudrait faire un effort pour avoir une production d'énergie différente. Et nous avons du soleil, nous avons certains endroits du vent, certains endroits où la mer, certains endroits où l'eau, certains endroits où on peut puiser l'énergie dans le sol. Donc l'énergie, surtout celle du soleil, elle est inépuisable, elle est gratuite en plus. Donc il faut travailler sur ces trois axes-là. Et c'est de là qu'a réfléchi un peu la société coopérative EDERCOP, qui est une société, non pas une société anonyme, où les actionnaires vont essayer d'avoir le plus gros rendement, mais c'est une société coopérative d'intérêt collectif, où l'intérêt, c'est le collectif, c'est-à-dire la société. Donc quand vous prenez des parts à EDERCOP, vous ne le prenez pas pour avoir un intérêt. Vous aurez peut-être un intérêt plus tard, mais maintenant vous venez parce qu'il y a une urgence de faire quelque chose. Et alors, la mission d'EDERCOP, c'est de produire ou d'acheter de l'énergie électrique et de la revente aux particuliers ou aux entreprises. Et c'est dans les statuts de la société coopérative EDERCOP, il y a un chapitre qui dit « Elle ne peut produire, ni acheter, ni revendre que de l'énergie renouvelable. » Donc, c'est 100% renouvelable. Alors, il dit « Oui, mais quand le fil, comment ça se fait qu'on peut voir si la mienne est verte ou si elle n'est pas verte ?» Le problème n'est pas dans l'électricité elle-même. L'électricité elle-même, quand vous l'avez chez vous, elle a des caractéristiques. C'est 230 volts et 50 hertz. qu'elle ait été produite par une centrale nucléaire ou par un capteur photovoltaïque, on arrive toujours à, on doit arriver à, donc c'est pas par là qu'il faut prendre le chose. Il faut considérer un peu le réseau de fils électriques un peu comme une grosse baignoire. Si on veut transposer sur l'eau, une grosse baignoire dont il y a des gens qui mettent de l'eau dedans, des gros producteurs ou des petits, et puis il y a des petits robinets en dessous où chacun puise de l'eau. Mais chacun a un compteur, aussi bien ceux qui mettent que ceux qui prennent. Et le principe, c'est qu'effectivement, il faut que la baignoire soit pleine, mais il ne faut pas qu'elle déborde. Parce qu'autrement, c'est le réseau qui explose. Si maintenant, y a, tout le monde prend et qu'on ne met rien dedans, elle va se vider, puis ça va être la catastrophe. Donc c'est un peu comme ça sur le réseau électrique. Et il y a un organisme qui s'appelle ERDF, qui va d'ailleurs changer de nom d'ici peu, et qui a pour mission, disons, de réguler le réseau. Donc il y a des producteurs, Enercoop, EDF, et puis d'autres. Il y a les gens du réseau ERDF qui gèrent et il y a des consommateurs que vous êtes. Voilà un peu comment on fonctionne. Alors, à Enercoop, disons qu'il y a un tarif unique pour tout le monde en France, que vous soyez à Paris ou bien dans un petit village de la Drôme. La garantie, disons, d'avoir de l'électricité, on a les mêmes chez tous les fournisseurs. Parce qu'au fond, quand il y a un problème sur le réseau, c'est toujours les gens de ERDF qui interviennent. Donc, que vous soyez à Enercoop, que vous soyez un autre fournisseur, si vous avez un ennui, vous prenez votre facture, vous avez un numéro sur votre... C'est toujours, vous tombez toujours à ERDF. Donc, de ce côté-là, la garantie, parce que si le fournisseur, pour prendre un client, il faut qu'il dise à ERDF qu'il a bien des garanties de pouvoir le fournir. Donc, voilà un petit peu ce qu'est ERDF. Ce n'est qu'un fournisseur d'électricité, mais 100% renouvelable.
Tout à l'heure, vous disiez que les bénéfices d'Enercoop étaient en majorité voués à du réinvestissement pour produire de l'énergie durable.
Je vais dire pas en majorité, en totalité.
En totalité.
En totalité.
En totalité.
Pour le moment, elle n'a pas l'intention, du moins maintenant, de rémunérer les sociétaires, mais elle le fera peut-être à fois. Mais le principal, de toute façon, quand elle le pourra, la grosse majorité de ça retournera à l'entreprise pour créer de nouveaux outils. De production ou de distribution, soit de rachat de concessions hydrauliques. Parce qu'il faut dire qu'à Enercoop, elle revend son marché, c'est 93% de renouvelables en hydraulique et environ 5% bien sûr de renouvelables en éolien et très peu en photovoltaïque et un peu de biogaz.
Donc vous encouragez là actuellement surtout l'énergie issue de l'hydraulique?
Oui, c'est parce qu'au fond, l'hydraulique, on l'a produit depuis longtemps. C'est à la limite la plus facile. Mais n'oublions pas le soleil, parce que le soleil, au fond, on a l'avantage qu'il brille partout, lui. Que vous soyez... Il n'y a pas une maison qui est complètement à l'ombre. Oui, il y en a bien sûr, mais enfin, en général, il y a quand même... Donc, ça veut dire que le photovoltaïque, par exemple, s'il est concentré sur les maisons, il n'aura pas beaucoup de pertes. Puisqu'il sera utilisé par la maison ou par le voisin. Parce que les électrons, au fond, ils sont plus fainéants que nous. Ils vont au plus près. Donc, ils ne vont pas aller d'ici, ils ne vont pas aller de la Drôme en Bretagne. C'est effectivement, s'il n'y a pas de fournisseurs sur le réseau, ils vont aller jusqu'en Bretagne. Donc, il y aura beaucoup de pertes. Mais seulement s'il y a tous les 5 km, il y a des toits sur lesquels il y a des photovoltaïques, à ce moment-là, il n'y a pratiquement pas de perte. Donc, c'est du gain pour la société. Parce qu'au fond, quand la centrale envoie du courant à 400 000 volts sur le réseau, bien sûr, il faut compter qu'elle a souvent plus de 10% de perte. Donc, ça, c'est de l'énergie qui a été produite et qui n'arrivera jamais nulle part.
Est-ce que c'est physiquement réalisable le fait, par exemple, de produire une électricité entièrement grâce à des cellules photovoltaïques?
Je crois que la production d'électricité, elle doit être multiple. On a aujourd'hui de tas de systèmes, disons, mais c'est vrai que le soleil est un des moyens, puisqu'au fond, on en a tous les jours. C'est vrai qu'on n'a pas de soleil la nuit, heureusement. Mais disons que l'hydraulique, c'est aussi un équipement facile. Et là, il faut être aussi prudent. On ne doit pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, EDF a eu des problèmes parce qu'effectivement, il ne laissait pas un débit suffisant au niveau des barrages. Donc, il y a un débit minimum qu'il faut absolument préserver. Parce qu'il faut, pour tout, il faut penser un peu aussi à la planète, à l'environnement. Je crois que tous les problèmes, si on ne les résout pas avec au même niveau que le financier, le problème environnemental, je crois qu'on est toujours sur une mauvaise piste. Toujours.
Au niveau Diwa, est-ce qu'il s'opère des choses de cet ordre ?
Oh, le Diwa, la vallée de la Drôme, la Drôme en général, la Rhône-Alpes, on peut jusque-là, ce sont des régions, des petits pays où effectivement on discute. La preuve, c'est quand même les rencontres ici de l'écologie, ça fait 14 ans qu'elles existent. Il y a aussi, par exemple, dans un autre domaine, il y a le magasin La Carline à Die, qui a démarré comme association, qui est maintenant une coopérative, qui a, elle aussi, elle a ses principes, elle veut que les produits qu'ils vendent soient entièrement bio, qu'ils soient produits le plus localement possible et avoir des contacts avec tous leurs fournisseurs. Donc vous voyez, il y a l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect environnemental qui doit toujours être présent. Et si aujourd'hui, dans l'économie, quelle qu'elle soit, si on ne prend pas en compte que l'environnement, c'est notre repère, disons, absolu, nous n'en sortirons pas.
Donc la démarche des NERCOP, en quelque sorte, c'est à long terme de remplacer les centrales nucléaires par une énergie renouvelable.
C'est le but des NERCOP, effectivement. C'est que le plus vite possible, les gens apprennent à consommer moins, à consommer mieux et à consommer renouvelable.
Et au meilleur des cas, vous envisagez un terme de combien d'années, si c'était possible ?
Ben, c'est possible très très vite. Si je vous dis, si les gens arrivaient à baisser leur consommation de 20%, si maintenant ils amélioraient leur équipement de aussi 20% aussi, et si on produisait 20%, voilà déjà 60% de prix du jour au lendemain. Ça veut dire que les centrales, dans quelques années, pour moi, on peut y arriver.
Est-ce qu'on peut associer le nouveau compteur Linky qui va être distribué sur toute la France par ERDF et qui est soi-disant un compteur intelligent en quoi, d'après vous ? Et est-ce que vous y voyez, vous, pour Enercop, un avantage de ce compteur ?
Moi d'abord, je n'utiliserai jamais le terme intelligent pour de la matière. Le compteur n'est pas intelligent. L'intelligence, ça, c'est la pensée. De la pensée, on peut avoir des actes intelligents, mais la matière n'est pas intelligente, elle fait ce qu'on veut en faire. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas non plus l'information peut-être nécessaire, mais je crois que là, effectivement, il y a des gens qui sont très sensibles, et puis il y a des gens qui se disent, au fond, ben voilà, on vient voir un peu trop dans mon privé, et disons que là... mais il y a beaucoup de réticences, disons, pour ces compteurs-là. Je sais qu'il y a au sud de Bordeaux une où il y a eu une délibération au niveau de la commune et qu'en conseil municipal, ils ont voté, disons, de ne pas installer des compteurs ni qui maintenant, tant qu'ils n'auront pas des précisions sur éventuellement les dommages que ça peut créer sur la santé des personnes et sur le manque de liberté qu'on pourrait avoir. Je sais que ça, alors, ils demandent effectivement que les gens écrivent à leur maire, à leurs députés, ou qu'ils se rassemblent. Je crois que l'important, c'est d'arriver à en parler. Dans les conseils municipaux, je crois il faut que le public prenne ça en main et qu'il arrive à... Parce que vous avez une information, moi j'en ai une, on est contraire, mais au fond, en écoutant l'autre, on peut trouver. Mais si on nous apporte ça comme ça, sans nous donner d'informations, c'est vrai qu'on va dire, non, moi je n'ai pas besoin de ça. Quoi. Donc c'est d'abord là, apprendre à toute décision qu'elle soit prise avec le citoyen. Et pour ça, au fond, je rappellerai quand même qu'il s'est passé des choses extraordinaires à Saillant. C'est que Saillant, maintenant, ici, une commune d'ici de la vallée, où les décisions importantes du conseil municipal, elles sont toujours passées par une discussion du citoyen. Et je crois que c'est ça. On vivra bien plus heureux si, avant un projet, on nous en parle, si on peut donner son avis. Il y a des avis qui n'auront pas beaucoup de sens. Il y a des avis qui seront très intéressants parce que par des gens, des citoyens techniciens ou des ingénieurs ou médecins ou même par le simple citoyen qui sera jardinier ou même qui ne le sera pas, par le chômeur, par tout citoyen. Je crois que tout le monde peut apporter quelque chose à tous les projets. Et voilà, c'est un exemple à suivre, disons, au niveau de la démocratie. C'est ce qu'essaie de faire Enercop dans son fonctionnement.
Monsieur Roussel, vous disiez que vous avez passé 40 années de combat, en quelque sorte, sur le territoire du Diwa.
Oh, pas sur le territoire du Diwa, parce que moi, au fond, pour ceux qui reconnaissent un peu mon accent, moi, je suis un peu lorrain, mais lorrain belge. Donc, je suis un belge, mais ça fait depuis 92 que nous habitons ici dans la Drôme et qu'on s'y trouve très bien, d'ailleurs. C'est un magnifique pays. Donc, mais c'est vrai que je suis militant depuis longtemps. Et je vous avouerai que moi, j'ai eu, disons, la chance aujourd'hui. Mais j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire. Et disons que c'est vrai que comme j'étais un anti, pas militaire spécialement, mais j'ai jamais aimé les armes atomiques parce que c'est vrai que c'est une destruction totale et je n'aime pas ça. Donc je militais dans les années 60, 70 contre l'armement des missiles. Et je travaillais dans la centrale. Et je n'imaginais pas au départ, et puis quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu d'où c'était, et au bout de 15 ans, là, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, même si j'avais encore des enfants en bas âge, puisque quand j'ai quitté le domaine du nucléaire, j'avais 38 ans, j'avais 15 ans d'ancienneté, donc j'avais des 3 enfants en bas âge. Donc, et depuis, je crois que je n'ai plus besoin de jouer au loto, je crois que le fait de prendre ma vie en main, c'est déjà le bonheur assuré. Et je voudrais que, proposer à tout le monde qui réfléchisse un peu sur leur travail, mais si on ne travaille pas, disons, en conscience dans l'entreprise où on est, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part.
On parlait tout à l'heure, je reviens sur l'énergie photovoltaïque qui me semble utilise des matériaux quand même pas très bons non plus au niveau de la durée. Est-ce que vous envisagez ce recyclage ?
Ben, il est déjà bien entamé. L'Allemagne qui a une génération d'avance sur nous, sur la France, c'est vrai que le recyclage se fait. Mais il faut savoir que dans les capteurs, il y a des matériaux qui sont. Mais je crois dire que nous en avons tous dans la poche de ces matériaux-là. Parce que disons 98% des gens aujourd'hui ont un portable dans leur poche. Ils ont des tablettes et c'est les mêmes problèmes. Seulement le capteur photovoltaïque, il va durer, lui, peut-être 30 ou 40 ans. Le téléphone, pas. On va le remplacer tous les 6 mois parce qu'on va nous proposer, disons, une nouvelle, un nouveau format. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. D'abord, ça se recycle et puis ça dure longtemps. Et puis, ça ne s'use pas. On va récupérer tout le vitrage, qui n'est que du verre. On va récupérer tout le cuivre. On va recycler le plastique. Et il y aura quelques matériaux qu'on pourra recycler, c'est vrai. Mais je crois qu'aujourd'hui, à part de vivre dans la jungle avec simplement les arbres, chaque fois que nous produisons quelque chose, il y a quelque chose au bout. Et ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à faire une entreprise, effectivement, où le bout est un commencement. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le bout, c'était la décharge. Et ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus soutenable aujourd'hui. Donc l'homme crée des choses, crée des produits. Mais je crois qu'il doit créer des produits qui doivent pouvoir se recycler. Quand l'outil qu'on a créé, d'abord, il faut essayer de construire. Et ça, c'est un problème du gouvernement. Et on devrait imposer aux constructeurs de faire le meilleur matériel possible. Et un matériel qui peut se réparer. On vous fait des appareils aujourd'hui qui sont scellés pour qu'on ne puisse pas. Et ça, c'est déjà nocif en soi. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Il n'y a pas que. Au fond, la production, il n'en faut pas beaucoup de production électrique pour le particulier. Et en plus, le particulier, il peut produire, disons, à moindre coût la sienne. Soit par une petite éolienne, soit par du photovoltaïque, ou par l'hydraulique, s'il a la chance d'habiter un petit ruisseau. On peut aujourd'hui, au niveau de l'individu ou du quartier ou d'un village, disons, arriver à être, si pas autonome, disons, à réduire la partie dont nous avons besoin et que nous ne savons pas produire. Mais ce qu'il faut, il faut cette part-là. Surtout que l'énergie électrique, c'est ce qu'on appelle une énergie noble. Le charbon, c'est une énergie qu'on peut la brûler, mais on peut aussi faire de la chimie avec ça. Donc, le chauffage, c'est quand même, disons, basique. Donc, essayons de trouver des moyens de chauffage. Isolons nos maisons. Donc, baissons-la. Et quand on aura fait tout ça, on n'aura plus besoin de nucléaire. Je recommande aussi aux gens d'aller voir le film Demain. C'est un film qui est très... très positif en soi, qui montre bien effectivement, pas les carences, mais disons les atrocités de notre système, mais qui ont une démarche vers pour le demain et pour la vie, pour vivre au moins tous plus heureux. Quoi. Parce que le but de la ville est là, c'est de vivre heureux, même à côté de celui qu'on ne partage peut-être pas les choses de la vie.
Enercoop, ça représente de l'emploi aussi.
Ça représente de l'emploi, par exemple, pour. Parce que Enercop, c'est une société donc, qui est nationale, mais qui a 10 régionales pour le moment. Et par exemple, la régionale Rhône-Alpes, elle a 9 salariés.
D'accord. Et là, c'est passé en Auvergne-Rhône-Alpes. Il va y avoir une restructuration
Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les hautes sphères d'Enercop. C'est possible, c'est pas impossible. Voilà. Mais disons que les régionales se construisent au fond au fur et à mesure qu'il y a des gens localement qui s'intéressent à ce projet-là. Et là, il y a un projet qui naît. Et le projet, par exemple, pour nous autres ici en Rhône-Alpes, c'est par exemple, ils ont mis ce qu'on appelle une politique d'économie d'énergie et ils ont inventé le Dr Watt. Dr Watt, au fond, on se réunit, il y en a une à Valence le 2 février, on se réunit, c'est à la Frappna, et là, il y a une personne d'Enercop qui va venir, qui va dire, voilà, on va essayer d'analyser votre maison pour voir un petit peu toutes les pièces. Et on va faire l'inventaire de tout l'équipement électrique qu'on a, les prises de courant, l'éclairage, les lave-vaisselle, enfin tout ce qu'on a. Et on va, pendant 6 semaines, on va essayer chez soi avec un appareil qu'on peut louer, qu'on peut acheter, qui coûte environ 15 à 20 euros, on va faire des mesures. Et pendant 6 semaines, pour mesurer tous ces équipements. Et tout ça sera mis sur Internet. Et vous aurez un numéro de compte qui sera bien le vôtre. Et ils vont analyser tout ça. Et 6 semaines après, on reconvoque les mêmes personnes. Et à ce moment-là, on analyse. Et à chaque personne qui a fait l'expérience, on lui dit, bah, écoutez, vous, au niveau des veilles de vos appareils, il y a comme une grosse consommation. Vous, sur le froid, vous avez probablement des appareils qui consomment beaucoup. Ou quoi. Vous, ça sera sur l'éclairage. Donc, l'isolation de votre maison. Donc, il y a tout ça. Donc, voilà, c'est en Rhône-Alpes. En Languedoc-Roussillon, par exemple, ils ont trouvé autre chose. C'est qu'ils ont... Ils vont mettre un système pour avoir du photovoltaïque pour consommer le plus possible de la consommation de jour. Donc un système avec quelques capteurs, pas beaucoup, donc investissement le plus léger possible et autoconsommer, puis remettre le restant sur le réseau ou le vendre ou le donner. Voilà.
Vous parliez de 9 emplois dans la région Rhône-Alpes,
oui.
Qui sont sûrement d'ordre plutôt administratif ou comptable plutôt que d'être sur le terrain.
Il y a une attachée commerciale qui est à la base, mais il faut dire que c'est vrai qu'il y a comme moi, disons, en Rhône-Alpes, nous sommes, je crois, une trentaine de sympathisants, de bénévoles, qui allons sur les foires, au marché suivant, voilà. Donc, mais ils n'ont pas de démarche commerciale, disons, par téléphone, par-ci, par-là, venez chez nous. Non, je crois que ça se fait. Ça doit être d'abord, on est libre de choisir son fournisseur. Mais je crois que le but, c'est de pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce que l'électricité, d'où elle vient, et qu'aujourd'hui, on a le choix de choisir, qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire de sa maison, on peut choisir son fournisseur. Donc tout ça est bien expliqué. Et à Enercop, au fond, tout est transparent. C'est ce qu'on reproche un peu à notre fournisseur historique, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans son fonctionnement qui n'est pas transparent, au fond. Quoi.
Enercop existe depuis combien d'années ?
Je pense que Enercop existe depuis, je crois que c'est de 2005. Le public, c'est pour le privé, c'est, ou même peut-être avant. Ça fait quand même, oui, ça fait 10 ans au fond que le public peut prendre son électricité à Enercop. Donc ça fait, on peut dire qu'Enercop a une dizaine d'années ici. Hein.
Et ça représente à peu près combien d'abonnés à Enercop, juste pour la région Rhône-Alpes?
Ah, pour la région Rhône-Alpes, je crois que c'est un peu plus de 5 000 abonnés. 5 000 abonnés et pas loin de 30 000 au niveau du pays. Donc c'est dire si la région Rhône-Alpes est quand même une région très dynamique de ce côté-là.
Oui.
Et il y a un changement de courbe qui est en train de s'affirmer. Il y a maintenant énormément de gens qui maintenant choisissent un autre fournisseur pour leur électricité.
Et c'est une entreprise qui est en quelque sorte en pleine progression, toujours?
Ben, c'est une entreprise jeune qui démarre, parce que 10 ans, c'est pas beaucoup. Mais disons qu'elle a l'avenir et puis elle va essayer de grandir d'une façon qu'on appelle organique. Et ce n'est pas la peine de dire, voilà, on a besoin d'un million de noms. Maintenant, elle a commencé tout petit. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'elle diffuse, disons, l'information qu'il faut, avec l'électricité, être très modeste et apprendre à l'épargner le plus possible. Je crois que c'est un peu ça. Le message d'Enercoop, il est surtout là. Il est commercial après.
Et vous, Monsieur Roussel, en tant que bénévole pour Enercoop, est-ce que vous prenez un peu la température du Diwa, par exemple, pour savoir s'il est envisageable de créer peut-être un nouvel outil de production ?
Oui, je crois que les rencontres aussi peut-être peuvent aider à trouver des solutions, avec les citoyens, bien sûr, avec le politique ici de la région. Mais je crois que dans le Diwa, on a quand même du soleil, il y a des endroits où il y a quand même du vent. Donc il faut, mais ce qu'il faut, c'est les projets, il faut les construire ensemble. Quand quelqu'un a des idées, je crois qu'il faut en parler. Et puis il faut que on ne construit pas aujourd'hui de projets, disons, sans le citoyen. C'est quelque chose qui est à la limite qui est malsain. Donc s'il y a un projet, effectivement, il y en aura probablement. Je ne sais pas comment ils peuvent émerger, mais disons au niveau de l'énergie notamment. Mais déjà le fait de savoir que l'énergie, il faut faire attention à la produire et qu'on peut la produire, parce qu'effectivement on a aussi du végétal, on peut faire de l'électricité avec du biogaz. Donc je crois qu'on a ici des outils et la technique nous donne de l'équipement pour le faire. Mais moi je ne répéterai jamais assez, il faut apprendre à économiser l'énergie. C'est là qu'on gagnera le plus. C'est par ça qu'on arrêtera le plus de centrales.
Est-ce qu'Enercoop a un site internet, par exemple ?
Oui, Enercoop.fr, tout simplement. Très bien. Et alors, vous tombez à Paris, et après, on vous rebascule sur une ou l'autre, puisque je vous dis, il y a 10 régionales.
Et vous, en tant que bénévole, quelle est votre activité ? Mis à part, vous tenez le stand Enercoop pendant ces rencontres. Vous en faites d'autres ailleurs aussi ?
Oui, on va avoir le salon Prime Vert, où on est beaucoup présent. Puis des salons locaux, il y en a parfois à Étoile. Et puis il y en a eu à Saillant avec Biovallée. Puisque Biovallée, surtout, c'est un outil dont il faut saisir. Donc oui, je crois que nous ne faisons pas de porte à porte, voilà. Mais c'est dans les occasions, dans les salons maintenant où on parle de renouvelables, je crois qu'Enercoop essayera d'être le plus présent. Mais voilà, comme étant donné qu'il n'y a pas de revendeurs qui sont payés par la société, ben voilà, il faut des. Mais moi, je trouve que ça vaut la peine. Et puis je crois que le contact aussi avec les gens est important. D'expliquer un peu aux gens, c'est un peu, quand on sait effectivement ce que ça peut donner pour la société en elle-même, je crois que c'est de l'énergie, je suis bien payé en parlant.
Tout à l'heure, vous disiez que tout ce qui traitait de l'énergie renouvelable était un peu caché, un peu étouffé, au profit de l'énergie nucléaire.
Il faut
Est-ce que vous ressentez un intérêt accru du public pour cette démarche ?
Oui, de plus en plus, et pas non seulement pour l'énergie, mais pour tout ce qui est de l'activité humaine, la nourriture. Le bio, d'ailleurs, on voit bien dans l'alimentation. Beaucoup de gens, maintenant, veulent s'alimenter en produits bio. Donc, il faut des producteurs. Et je peux revenir là sur un exemple ici à 10. C'est l'exemple de la Carline, qui est quand même une entreprise aussi d'intérêt collectif, comme la même structure qu'Enercoop, qui a pour le but, c'est de que plus de personnes possibles puissent s'alimenter en bio. Donc chez à la Carline, on peut dire que 99% est en bio. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ils vont choisir les produits le plus près possible. Hein. Et troisièmement, c'est qu'ils ont des contacts avec tous leurs fournisseurs, disons personnellement. Et il y a une petite chose, si on va à la Carline, on pourra remarquer sur les étiquettes, il n'y a pas seulement le prix au kilo, mais aussi le kilométrage d'où vient le produit. Donc vous avez un produit, vous savez que s'il vient il a fait 5 km ou bien s'il en a fait 500. Donc là, on peut effectivement, c'est un indicateur effectivement dont il faut tenir compte, parce qu'un produit bio, si on prenait le plus simple, une salade qui peut être produite dans le Diwa, ou même dans le Crétois, c'est pas loin. Si maintenant vous vendez à la Carline des salades qui viendraient d'Australie, même s'ils ont l'étiquette bio, ce ne sont pas des produits bio. Parce qu'effectivement, venir d'Australie avec un produit qu'on peut produire localement, c'est une hérésie.
Là, j'ai entendu il y a 3 semaines chez un particulier qu'un magasin d'alimentation a dit vendait des salades du Kenya.
Voilà. Vous ne les trouverez certainement pas à la Carline.
Non, voilà, c'est sûr.
Donc voilà un peu l'intérêt du bio. Et du bio, il débouche sur le transport. Il y a un gros problème maintenant à résoudre sur le problème des transports. On voit bien dans la vallée de la Drôme, les camions augmentent en quantité et en importance. Donc là, il y a un réel problème et il faut aller voir dans les pays du Nord. Ce qu'il faudrait, là, voilà, c'est de réduire, de ne plus permettre aux gros camions de passer et d'avoir un transport par chemin de fer qui soit plus rapide, d'installer des transports, disons, plus économes en énergie électrique, mais électrique photovoltaïque et pas non plus électrique en branchant sur les grosses prises qui seront alimentées par les centrales nucléaires. Donc il y a tout ça, il y a du travail pour tout le monde. Il faut être innovant, il faut chercher, mais on trouvera.
Est-ce que vous cherchez aussi une alternative pure et simple de l'unique fournisseur EDF en tant que producteur, c'est-à-dire en passant par des espèces de communautés, de communes, ou alors il y avait un terme à Lavore, je crois qu'ils produisaient eux-mêmes l'électricité qu'ils vendaient aux habitants. Grâce à des forces motrices dues à l'hydraulique.
Oui, ben l'hydraulique est une façon de produire son électricité. Mais disons qu'il faut être dans un site. Il faut avoir une rivière, un ruisseau ou un fleuve. Mais faire attention toujours au problème de l'environnement. Je crois qu'il faut bien tenir compte que dans tous les cas, il faut mettre le côté environnemental à côté du problème financier, du problème à la limite même de l'embauche. Parce que si c'est pour embaucher des gens, pour faire un mauvais travail, pour faire un travail qui va détruire l'environnement, à la limite, ce n'est pas la peine d'embaucher pour ça. Donc le côté environnemental, parce que l'environnement, au fond, c'est notre maison, hein. Donc il faut la protéger, la maison on se la protège individuellement, mais c'est aussi l'environnement ici. Quand on est dans un bel environnement, ben, on aurait tendance à le conserver le plus propre possible. Mais toute activité humaine a un impact sur l'environnement. C'est pour ça qu'il faut penser, quand on fait quelque chose, penser au recyclage. On a un petit peu ce qu'on peut dire, et ça c'est valable pour Enercoop que pour toutes les autres. Mais il y a de l'avenir, surtout dans le Diois, et comme partout d'ailleurs. Mais voilà, il faut que ça puisse émerger. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on a le frein, notamment avec l'énergie, on a le frein avec ce boulet qu'on a au pied avec le nucléaire. C'est qu'il va coûter cher si on l'arrête, et il va coûter de toute façon beaucoup plus cher si on veut continuer. Donc dans tout le cas, le nucléaire, il va coûter cher parce qu'il va durer longtemps. Les centrales nucléaires, pour les maintenir à l'arrêt, donc sans produire, ça va durer des générations. Donc là, c'est un outil qui va consommer beaucoup d'énergie pour rien. Alors on recyclera bien le site, mais c'est quand même une destruction qui est pratiquement irréversible, quoi, le nucléaire. On n'a pas de moyens aujourd'hui d'enlever cette radioactivité, disons, qui est intense au niveau du cœur du réacteur. Et on n'a pas aujourd'hui encore d'autres moyens que de le cacher. Mais le cacher, où ?
La production industrielle, l'industrie est elle-même très gourmande d'électricité. Je pensais à la sidérurgie, qui avec leur fourneau était obligée de maintenir une température extrême, même hors production. Parce que ça met un temps fou à mettre en route au fourneau. Donc la nécessité de l'époque, durant les Trente Glorieuses, de créer l'énergie nucléaire pour pallier à ces demandes. Mais là, actuellement, l'industrie qui est en pleine débandade en France, puisqu'elle est de plus en plus délocalisée, quelle est la nécessité de produire toujours autant d'électricité, mis à part la consommation ?
L'impératif, c'est de vouloir continuer à gaspiller. Si nous voulons continuer à gaspiller, c'est vrai qu'en France, on aura toujours plus de nucléaire. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ça. La première chose, c'est d'apprendre à moins consommer. C'est aussi banal que ça à dire, mais ça créera de l'emploi parce que, disons, que si on développe un peu le renouvelable, il y a des centaines de milliers d'emplois pour la construction de nouveaux moyens de production, mais surtout pour les maisons. Pour avoir des maisons qui consomment moins au départ. La consommation des maisons, maintenant, on a fait des passoires jusqu'ici. Donc, il faut faire des maisons qui consomment rien. Et maintenant, il y a des maisons qui sont productrices d'énergie, qui en ont de trop. Parce qu'avec un bois d'allumette, comme on dit, en exagérant un petit peu, ben on chauffe sa maison. Donc, on a le chauffage, quand on voit des familles, des budgets qui représentent 10, 20, 30% de ce qui rentre dans le budget, ben voilà, il y a une économie faramineuse à faire, rien que dans le bâtiment. On ne parle même pas de production ici, on parle d'économie d'énergie et en ayant un confort au moins égal. Donc, ce n'est pas un problème d'arrêter la centrale nucléaire demain matin. Mais il faut en avoir la volonté.
Est-ce que, en parlant de volonté, vous pensez que l'avenir va en s'améliorant ?
Si je vois le monde que je côtoie, oui. Parce que je ne regarde plus la télévision, parce qu'à la limite, il n'y a plus grand-chose d'intéressant. Sinon, il faut la regarder à 3h du matin pour trouver une émission sur une chaîne ou l'autre. Mais si on regarde dans les chaînes nationales, il y a tendance, il y a peut-être une émission ou deux par semaine, mais à la limite, ce n'est pas la télévision qui va inciter les gens à réfléchir. Je crois que de ce côté-là, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et puis voilà, chacun fait son chemin. Mais surtout qu'il ne faut pas se sentir coupable de quoi, chacun a sa vie. Mais je crois qu'à un moment donné, on doit quand même se sentir responsable de quelque chose. Et notamment de l'environnement. Parce que nous vivons dans l'environnement tous. Et qu'on n'a pas le choix à ce moment-là. Nous n'avons qu'une seule terre. Et préservons-la. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire.
Très bien. Eh bien, monsieur Georges Roussel, merci d'avoir eu la patience de me parler au micro, malgré le petit souci. Et puis, votre impression sur les 16e rencontres d'écologie au quotidien ?
Ben, moi, je dirais que c'est une année forte, une année vraiment qui me plaît beaucoup, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, on vient chercher quelque chose aux rencontres. Et moi, je voudrais qu'il y ait quand même plus de gens du Diois qui viennent, parce que quand on voit que les gens viennent du Gard, viennent de l'Ardèche, viennent de la Loire, viennent de Paris, pendant 8 jours, qu'ils prennent sur leur temps de travail parfois, je me suis dit... Et puis alors, quand on parle avec eux, c'est vrai qu'ils viennent chercher. Les rencontres de l'écologie, c'est, pour eux, c'est une source de... On vient recharger. C'est un peu une batterie. Une batterie qu'on recharge avec de la bonne énergie, quoi. Si on peut un peu...
D'accord.
dire ça comme ça. Voilà. Mais c'est une bonne année, en tout cas. Une très bonne année, parce qu'il y a énormément de gens qui se rencontrent et qui échangent. C'est d'abord les rencontres, c'est l'échange.
Des moments forts aussi au niveau des intervenants, quelqu'un vous a marqué ?
Je dirais non, mais c'est surtout les gens qui m'ont impressionné du besoin qu'on a de vivre autrement. Ça se ressent très fort.
Ouais. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.